Vous savez qu'au début de chaque livre, il y a souvent un avertissement. Et l'avertissement consiste à un peu à définir la prétention du livre. Bon, voilà. Moi, je suis un peu culotté, un peu prétentieux, parce que, au fond, je veux faire une enquête, je veux vous présenter une enquête à ses tout débuts, si vous voulez, plus une observation participante. C'est vrai que c'est plutôt un fragment d'enquête que je vais vous présenter, dont je vais vous parler, puisqu'au fond, c'est une enquête qui s'étale sur 4-5 mois à peine. Donc, c'est une sorte de monographie, si vous voulez, que je voudrais vous présenter. Donc, ici, vous ne trouverez pas d'envolée sur le positivisme logique ou sur l'illusion rétrospective du progrès, pas question, non, mais un travail pour moi et un travail peut-être sur moi, je vous le dirai tout à l'heure peut-être, une narration dans laquelle je m'implique et que je chronologise, un regard sur des gens qui font la même chose que moi, dans la même institution que la mienne. Et ces gens, à mon avis, procèdent à une sorte d'objectivation déjà, spontanée de leur démarche, hein, les gens qui me parlent. Bref, je tente de dépasser les apparences, mais en partant d'elles et en les analysant comme telles. Il y a 4 ans environ, je rentre en formation instrumentale au conservatoire régional de ma ville. C'est une institution culturelle où se pratique de simples droits d'entrée pour toutes les générations d'élèves et, en principe, pas ou peu de circulation d'argent de personne à personne. Les cours particuliers d'initiation ou d'approfondissement se déroulent toujours hors les murs et ils sont privatifs, parfois associatifs. L'institution, le conservatoire, s'inscrit dans le cadre de la fonction publique territoriale. Elle y remplit un service public de formation musicale, d'enseignement instrumental, chorégraphique et théâtral. 3 expressions récapitulent le sens général de cette didactique. Théorie pratique, presque au sens de Durkheim, quand il parle de pédagogie, tenue du corps et compréhension musicale de l'œuvre. Les catégories musicales traditionnelles y sont vénérées comme un bloc incontournable de connaissances à acquérir. Les règles du solfège et de l'harmonie y sont regardées comme un impératif catégorique. De là vient une certaine rigidité formelle des rapports maître-élève. De plus, ce monde clos, relativement autonome, prétend incarner la musique sérieuse, promue dans l'enseignement par opposition à la musique légère, soumise, elle, à des impératifs hétérodoxes d'industrie culturelle. Alors, ni la musique électronique, ni la musique amplifiée n'y sont enseignées, répertoriées. Et, par exemple, aucun cours de guitare électrique n'y est donné. De par ses contenus cognitifs et instrumentaux, le conservatoire est comparable à une sorte de machine à jouer, un peu à la manière des machines à habiter de Le Corbusier, divisées en familles d'instruments et en classes qui leur correspondent. Il est régi par un mode d'apprentissage de savoir normatif figé qui, sous le signe de la répétition, sont inlassablement reconduits par la régularité des exercices. Tout le monde y partage le mot d'ordre suivant. C'est ainsi que l'on doit et que l'on se doit d'apprendre la musique, pas autrement. En transposant les mots de Dante, prière en entrant ici, de laisser à l'extérieur tout espoir de fantaisie. Au demeurant, l'improvisation qui pourrait l'autoriser et comme les autres, une matière obéissant à des règles précises, encadrer l'expressivité individuelle sur une thématique quelconque, tout en formant l'oreille de l'élève au monde sonore. À côté de ces savoir-faire ritualisés et de leurs mécanismes de reproduction, il est rare d'observer une dynamique de création chez les enseignants. Les pratiques routinisées s'y révèlent comme une condition de possibilité d'enseignement discipliné et même parfois disciplinaire, vous le verrez. Enfin, notons que la socialisation à la musique mûrit d'abord, si on peut dire, dans la tête des parents, ou parfois s'éveille chez tel ou tel élève sur suggestion amicale et par imitation des pairs. Ajoutons toutefois que les contours potentiels d'une élite se dessinent dans les classes dénommées CHAM, classes à horaires aménagés, qui recrutent les meilleurs éléments du conservatoire, à la fois en école primaire depuis le CE1 et en collège jusqu'en 3e, en combinant les horaires des meilleures classes dans les meilleurs établissements avec des enseignements musicaux. L'entrée en conservatoire introduit nécessairement l'élève à un nouveau milieu d'œuvres écrites et jouées par toute la palette instrumentale connue à ce jour, accordéon, piano, percussion, violon, etc. Et c'est la bibliothèque médiathèque du conservatoire qui met à disposition l'ensemble des œuvres classiques destinées à être travaillées. Car chaque élève sait avec certitude qu'à un certain moment du cursus, il aura à se confronter à la lecture et à l'exécution d'une ou plusieurs œuvres musicales. Il aura à les jouer en pratique dans le contexte de sa classe, puis à la fin du semestre, en audition publique devant les professeurs, ses camarades et ses parents. Le métier d'élève en conservatoire est ainsi appelé à joindre technicité spécifique de l'instrument, style d'interprétation de l'œuvre, information sur le compositeur et son époque. Et à ce titre, dans toutes les classes, le travail de l'instrument vient couronner les différentes initiations obligatoires, solfège, analyse d'une partition, structure de son écriture, etc. Partout, la pratique de l'instrument prolonge la rhétorique musicale conventionnelle. Elle met en application ses catégories constitutives, intervalles, tonalités, règles de l'harmonie, etc. L'unanimité des enseignants ne connaît aucune entorse. Les initiations théoriques sur les styles et celles historiques sur les époques sont comme les fourches codines du maniement d'un instrument, quelle qu'en soit la difficulté technique propre. De sorte que son apprentissage vient toujours en seconde position, sans évidemment n'être jamais secondaire. Il est plutôt l'ouverture d'un chantier nouveau. Chaque élève doit alors apprendre à exécuter correctement et de bout en bout une mélodie sur l'instrument de son choix, par exemple sous les doigts et les pieds d'un organiste. Il lui faut apprendre par cœur et si possible par cœur. La physiologie et l'émotivité du comportement scolaire y sont intentionnellement engagées et la mémoire tout le temps sollicitée. En somme, la scolarité s'appuie sur la maîtrise de la rhétorique en amont, mais elle est stimulée par les mots directement prescriptifs de la pédagogie en face à face et in situ dans la classe. Enseignants et élèves partagent une même croyance. Le résultat ne saurait être effectif que si la consigne donnée adopte chez l'élève la forme d'une prescription qu'il s'impose à lui-même. Et dans ce contexte, le maître se montre sous trois aspects, une esthétique affichée, il se réclame toujours d'un maître, une pédagogie en acte, il donne tout de suite la manière de travailler, en particulier, elle est fortement disciplinée et disciplinaire, ou disciplinante plutôt, et un discours de prescription. En fonction de leurs instruments, tous les professeurs font des choix de genre stylistique, qui sont confusément des choix de style historique, mêlés à des choix de catégorie esthétique. C'est vrai que c'est compliqué de relier style, histoire et esthétique, mais évidemment, pour cela, il faudrait rentrer dans l'histoire de la sociologie, de l'art, de la musique, de l'art musical, et en particulier dans l'opposition très forte entre romantique et baroque dont je vais vous parler maintenant. En tout cas, un tel contexte m'invite à m'interroger sur le statut du répertoire baroque, qui est particulièrement travaillé en classe d'orgue. Et je décide d'observer la classe dont je fais partie, de comprendre la démarche qui a conduit les élèves jusque-là. Autrement dit, je prends pour objet d'observation l'univers pratique qui m'accueille. Je tente de lui appliquer une méthode sociologique simple. Le répertoire des œuvres est propre à chaque instrument. Il définit le monde dans lequel les élèves produisent leurs références, d'où ils tirent leurs connaissances historiques et ils confirment leur jugement de goût. Le conservatoire n'est jamais un lieu d'apprentissage de la musique en général. À l'instar de la culture générale, la musique en général n'a aucune occurrence effective. Elle n'a aucune réalité indépendante. Ce qui réellement existe en revanche, c'est la musique pianistique, la musique du violoncelle, la musique de l'accordéon, de la flûte ou de la batterie, c'est-à-dire une musique toujours située dans l'espace et le temps, jouée par un instrument ou chantée par un chœur, et une musique travaillée en interne par des styles historiques et réglée par des catégories esthétiques, les uns croisant les autres et réciproquement. Par exemple, dans le répertoire organistique, les enseignants rappellent à tout bout de champ l'opposition qui s'est élaborée dans la première moitié du XIXe siècle à partir de Beethoven et de Mendelssohn Bartholdy, entre musique baroque et musique romantique. La première jouait plutôt staccato, donc avec des notes jouées détachées les unes des autres et inscrites dans une architecture harmonique et contrapuntique. La seconde, au contraire, jouait plutôt legato, des notes jouées liées les unes aux autres, visant à créer des effets de compensation, des effets des caractéristiques des tonalités de la musique du XIXe. Par exemple, l'expression implicite des passions, de la traduction musicale, des émotions et des sentiments. Tout se passe comme si ce langage binaire, baroque romantique, visible sur plusieurs supports dans les classes du conservatoire, était une sorte de koiné, de langage commun, servant de viatique pour une bonne intégration à la classe, un socle de communication et de croyance entre élèves au sujet du classement des œuvres. Mais bien sûr, savoir si un tel langage correspond à une réalité historique objective, c'est évidemment une autre paire de manches. Quoi qu'il en soit, la classe d'orgue vénère toujours sans hésitation l'œuvre de celui qui, par ses œuvres vocales et instrumentales, en est le pivot, Jean-Sébastien Bach. La partie de son œuvre qui concerne la musique d'orgue comprend tout un volet composé par lui en vue de l'enseignement. C'est le cas dans ses 8 petits préludes et fugues, dans ses sonates, et plus encore dans ses chorales consignées dans les 45 préludes sur des mélodies de chorale de l'orgel Buchlein. Un mot s'impose ici au sujet du choral luthérien et de son prélude. D'une part, Bach, en bon luthérien, élabore ses propres harmonisations en lien très étroit avec le texte poétique construit sur le commentaire biblique. Mais d'autre part, le prélude du choral constitue la norme d'apprentissage des apprentis musiciens par excellence. Il réunit en lui l'héritage des pratiques de chœur, les mutations de l'écriture musicale depuis la fin du XVIe siècle, en particulier la substitution de la musique tonale à la musique modale qui était héritée de l'Antiquité et du Moyen-Âge, et l'évolution des techniques instrumentales. Le pédalier, par exemple, à 32 notes, s'impose en Allemagne du Nord dans la première moitié du XVIIe siècle avec des gens comme Pachelbel ou des gens comme Buxtehude. Le prélude de chorale est depuis ce temps et encore aujourd'hui le paradigme même de l'enseignement de l'orgue en France et sans doute dans la plupart des pays qui l'enseignent. À la convergence des facteurs historiques s'ajoute une raison de fond. Les 45 préludes et leur fantaisie avec variation sur une mélodie de chorale de l'orgel Buchlein dont je viens de vous parler forment un ensemble cohérent exploitant les ressources techniques de l'instrument et réunissant toutes les difficultés d'exécution du répertoire. Par exemple, j'étudie actuellement le choral numéro 24 intitulé « O Mensch, bei wein dein Sünde groß » donc « O homme pleure sur tes lourds péchés ». Il est considéré, j'ai de très lourds péchés à faire pardonner, il est considéré comme le condensé des principaux ornements et appoggiatures connus dans la musique d'orgue française des années 1730. C'est ici une approche intéressante de la catégorie de baroque sur un support musical bien architecturé et bien rythmé comme l'est le choral. Vous savez que le choral introduit des mesures de manière très, très précise et très presque arithmétique, hein. Sur cette surface consonantique, comme des perles dans leur monture, miroitent les éléments clairs distribuant la lumière. Ce n'est pas de moi, c'est de Severo Saduy parlant du baroque. C'est-à-dire l'idée que, au fond, la couleur des ornements doit véritablement venir s'étaler sur la mélodie elle-même, qui est d'une austérité luthérienne tout à fait évidente. Bach, qui avait souhaité les voir maîtrisés par ses élèves, ce choral avait recopié les grandes pièces des organistes français qui les mettaient en œuvre. Il s'agit des musiciens à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe, comme Louis Marchand, Nicolas de Grigny, Louis-Nicolas Clérambeau, d'Andrieux et aussi le fameux Claude d'Aquin, que tout le monde connaît parce que dans sa tête, tout le monde a le souvenir du petit menuet qui s'appelait le coucou. Je décide d'observer par conséquent dans la classe du conservatoire l'ensemble des activités exigées par l'apprentissage croisé d'un tel répertoire et d'un tel instrument. Je regarde de près comment elles sont vécues par chaque élève et à plus long terme comment elles font corps avec lui, créant comme une seconde nature. Au fond, je pars de ce que je vois, j'entends, je crois comprendre, à savoir les éléments constituants de la didactique, la lente acquisition des postures physiques adéquates, les bonnes assises, la bonne distance à l'instrument, au clavier, lesquels pour l'orgue, vous le savez, peuvent s'étager sur 3 ou 4 niveaux devant vous. La bonne distance au pédalier, la bonne registration des fameuses tirettes, le respect des temps de respiration quand on joue, dans l'enchaînement des moments de l'exécution. Je ne saurais ici, évidemment, m'enfoncer dans le détail des multiples consignes spontanées, balancées tout de go par le professeur et impliquées qui est derrière nous, et impliquées en toute exécution. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous dire quelques mots sur le déroulement d'un cours, car chaque cours donne lieu pour moi à de nouvelles découvertes. D'un mot, je vous dirais que le carnet de bord que je tiens me permet d'en mesurer après coup l'aspect éclectique. D'un mot vulgaire, on pourrait dire tout y passe, tout fait sens. De plus, les dites découvertes impliquent de plier le corps à des postures nouvelles. À la respiration viennent s'ajouter l'indépendance des mains, des pieds, le contrôle strict des battements d'une trille, l'effleurement des touches en bois du pédalier, etc., pour éviter d'entendre le mécanisme ou le renfoncement. Voici la description qu'en fait une élève. Au moment de ma retraite en 2011, je quitte Paris, je divorce, je reviens m'installer à Limoges où j'ai encore toute ma famille. Et je décide de reprendre l'orgue et le chant. Pour mon premier recrutement en classe d'orgue et mon inscription, tout s'est très bien passé. Quand je suis arrivé à Limoges, j'ai téléphoné au conservatoire. Ce n'était pas évident de m'inscrire en cours d'année. J'ai alors cherché des cours particuliers. Puis je suis tombé sur Guy, le professeur de la classe d'orgue, qui m'a donné rendez-vous à l'église Saint-Pierre du Quairois pour l'épreuve préalable. Et, sans me faire rejouer, il a décidé de me prendre dans sa classe. Je me suis inscrit à la rentrée suivante. Aujourd'hui, j'ai derrière moi 5 ans de travail d'orgue et de chant, parce qu'elle chante beaucoup en lyrique aussi, depuis septembre 2012. Mon problème, c'est de lire correctement les notes, d'entrer dans le rythme, d'être dans la polyphonie du choral. « Je vais décrire en cours », me dit-elle. Je rentre un peu à l'avance, je m'installe, je dis bonjour. Je suis très discipliné. Cela m'intéresse de voir comment Guy s'y prend. Une enfant, une élève, qui me précède, travaille, solfège, lit les notes. C'est toujours papa ou maman qui veulent que leurs parents, que leur enfant fasse du piano ou de l'orgue. Pour moi, c'était papa, qui était médecin du travail, très catholique, et qui voulait que je fasse de l'orgue. Ce sont les parents qui le désirent. Le choix est externe. Ils souhaitent que l'enfant joue ceci ou cela. Quand j'étais à Paris, j'allais à la Cité de la musique. Il arrive que les parents se mettent à l'instrument à la suite de leurs enfants. Le cours dure 3/4 d'heure environ. Je fais l'exercice du pédalier, puis je joue le morceau en cours que je travaille mesure par mesure. Je dis souvent au prof, je le savais mieux ce matin quand je m'entraînais. Tout se passe comme si la crainte du prof déteignait en sa présence sur nos performances. Guy relève tous les détails, les faiblesses du tempo, les fausses notes, les notes oubliées, les ralentissements, les répétitions non écrites. Alors évidemment, personnellement, je note régulièrement toutes ces petites variations, toutes ces petites remarques, car le professeur réagit plus à ce qu'il entend de l'instrument qu'à ce qu'il entend de l'élève. Comme il se pose toujours au fond de la classe, il nous examine et nous évalue de dos, si l'on peut dire. Ainsi, je relève tous les blocages psychologiques tels qu'ils se manifestent, les résistances d'exécution, les reprises répétées par obligation, sans toujours y réussir, et parfois ad nauseam. Le mot de choix du professeur est imperturbablement et mécaniquement rebelote, recommencer. Il vise à une maîtrise parfaite de la mesure ou du fragment arbitrairement découpé au bout du compte et par la succession des répétitions justes, car il faut que la posture et le doigté soient bien ancrés, mémorisés et donc reproductibles à la demande. La répétition, en effet, est au principe de l'apprentissage. Enfin, au bout de 3/4 d'heure, la fatigue des corps, voire leur détresse ou leur souffrance, est visible sous l'avalanche des critiques de détails. Le maître a beau se mettre à la place de l'élève pour lui montrer comment il faut jouer à un certain moment du cours, rien n'y fait, tout bascule, l'atmosphère a alors quelque chose d'incisif, remontant inlassablement son rocher. J'ai ainsi observé le modus operandi du professeur et en parallèle, plus ou moins souple et docile et parfois cabré, les réactions des élèves, de chaque élève. Je me souviens par exemple d'un élève qui s'appelait William, un élève très avancé en piano et en orgue, faisant les deux en parallèle, se rebiffait amèrement, et là je rejoins Louis, contre l'impression de rabâchage qu'il décelait, ou en tous les cas ressentait dans la musique de Jean-Sébastien Bach. « C'est toujours la même chose, disait-il, un jour devant moi. Peut-être cherchait-il en moi une oreille complice. » Et, ajoutait-il, « c'est bien différent du style romantique, baroque romantique, qui nous émerveille par sa légèreté, son aspect primesautier, mais aussi sa profondeur sensible. Écoutez Liszt, Chopin, Saint-Saëns, César Franck, Gabriel Fauré, ils innovent. Vous aurez cette impression. » Il disait ça au prof. Face à lui, le professeur sidéré par le jugement de son meilleur élève accuse l'effet de provocation. Il lève les yeux au ciel et reprend son ton magistral en rappelant que tout de même, Bach, le maître du contrepoint, le maître du double contrepoint dans la polyphonie, le créateur musical le plus fécond du XVIIIe siècle, était aussi celui qui avait établi précisément la forme de la fugue, c'est-à-dire les règles scolaires dans lesquelles lui, William, avait appris à lire et à jouer. Fermez le banc. Ainsi, sans complexe, je participe pleinement à la vie contrastée de la classe d'orgue et j'observe comment le professeur me traite, me corrige, me reprend en main. Je fais des expériences en tout point analogues à celles des autres élèves. J'intériorise les logiques, les ressorts, voire les petits secrets d'exécution. Par exemple, le professeur me dit de commencer à apprendre un morceau à l'envers, par la fin, de remonter vers l'incipit, vers le début comme un pêcheur remontant une rivière. Chose qui est difficile à faire dans l'apprentissage sportif.
comme tu le sais, Charles, puisqu'il est impossible de remonter l'horloge de l'épreuve. En même temps, j'apprends sans mettre les mots les petites ruses de la pratique instrumentale, et cela par la seule voie possible, une succession indéfinie d'essais et d'erreurs, que l'on relance semaine après semaine. Par exemple, « Oh, homme pleure sur tout le péché », je traîne ça depuis Noël. C'est un travail étrange sur soi. Les progrès sont réels, mais s'étalent dans la longue durée. Ainsi, partant d'une seule et même œuvre à jouer, prof et élève, nous constituons une classe productive, une force productive, on pourrait dire, à la manière marxiste. Une force productive d'exécution, d'interprétation, qui cependant n'est pas exemple d'une certaine concurrence entre nous. Cette dernière n'est jamais déclarée, passe par des rumeurs, des opinions circulant sur les uns et les autres, et qui finissent par se solidifier, pour s'imprimer dans nos esprits. Nous avons avec nous deux Japonais qui se sont mis à l'orgue il y a peu de temps et qui font merveille, au dire de tous, dans le déchiffrage et la technique du jeu. J'ai écouté la petite japonaise. Elle est époustouflante. Alors, je les ai interrogés. L'un est un spécialiste de la technique du synthétiseur qu'il rapproche de l'orgue. L'autre a une très forte et très solide formation de pianiste. Reste que la classe se développe dans un rapport hiérarchique fort avec le professeur, soutenu par un esprit dogmatique d'un seul bloc. Le maître a toujours raison. Dans un des tout premiers numéros d'actes de la recherche en sciences sociales, Bourdieu souligne l'importance du langage autorisé en institution et décrit les conditions sociales de l'efficacité du discours rituel. La parole professorale fonde son efficacité tant par ses prescriptions que par ses monstrations en conservatoire. L'enseignant le prouve en se mettant au clavier. Il est toujours brillant. Et bien sûr, c'est nous oublier, nous éblouir, avec un sourire gourmand, avec l'air de dire « Vous pouvez toujours ramer les petits amateurs que vous êtes. Vous ne m'égalerez jamais. » La situation objective devait nous conduire à détester ce prof qui nous houspille vertement pour des résultats toujours aléatoires, jamais définitivement au top. On ne sait jamais véritablement un morceau au top. Parfois décourageant et où le sentiment de faire du surplace, partagé par tous, semble inviter à l'humilité. Les interactions entre élèves portent davantage sur ce que chacun est en train de travailler que sur les avatars de son apprentissage. Eh bien non, il n'en est rien. Le prof détient à nos yeux le bénéfice symbolique de celui qui a priori sait tout jouer et tout interpréter. À nos yeux, aucune difficulté technique ne l'arrête. Et quand nous sommes invités à l'entendre en concert, nous sommes toujours émerveillés de voir comment il s'en sort, de voir qu'il est maître de son jeu et de sa partition. Sorte de polytechnicien du son et du jeu, il fait naître en nous un unanimisme de croyance. Nous nous disons que nous avons fait le bon choix en l'adoptant comme prof. Je vais vous dire un mot sur le groupe et ensuite je voudrais réfléchir pour finir sur la question de la réflexivité, de l'objectivation et de la réflexivité. Un mot sur le groupe. Dans l'enquête, l'autodescription des pratiques d'élèves oscille entre deux pôles. Les motivations conjoncturelles qui ont servi de chiquenaude ou d'occasion et leur attachement à des valeurs héritées qui expriment le choix esthétique de l'instrument, comme la référence religieuse, par exemple, de son répertoire. Les deux pôles se relient l'un à l'autre, car les conjonctures qui, dans la biographie de chaque élève, font lever l'intérêt pour la musique d'orgue ne se comprennent sociologiquement que sous l'aspect des valeurs qui les éclairent. J'ai pris en effet le parti d'éclairer le récit de découverte empirique par le récit d'affiliation axiologique. En définitive, j'ai cherché à mieux déterminer le style de la classe d'orgue par rapport aux autres classes ateliers du conservatoire. Alors j'ai modulé le questionnaire en forme de consigne large en fonction de deux variables, la classe d'âge, celle du statut d'actif, évidemment, et toutes les autres variables qui sont importantes, mais j'ai insisté sur ces deux au départ. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, ça me donne tout de suite la vision empirique de la classe. Au premier regard, trois strates d'élèves se distinguent selon l'âge. Le groupe des 10-25 ans, le groupe des 35-50 ans et le groupe des 65 ans et au-delà, que j'appelle vocation tardive, dont je fais partie. On décèle ici les prémices d'une typologie beaucoup plus précise à venir, en considérant un nombre conséquent d'années d'inscription, c'est-à-dire depuis la nomination de l'actuel titulaire du poste, pour montrer les variations de rapport entre ces trois groupes. Alors, je ne reviens pas sur ces trois groupes, mais j'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Je voudrais simplement réfléchir maintenant avec vous sur la question des ressorts religieux de la musique baroque qui nous est proposée quand on fait quand on joue de cet instrument en conservatoire. Je voudrais vous dire que dans ce travail, je n'ai fait au sens strict ni d'analyse de variables, ni d'ACM, et aucun diagramme n'en est sorti. Je l'envisage pour plus tard, dès lors que mon échantillon sera davantage fourni. Une lecture partielle de l'enquête peut, à mon sens, mettre en valeur quelques profils par simple rapprochement empirique de cas. Je prends le cas de deux élèves, un de 25 ans et une de 65 ans. Celui de 25 ans, ascendance artisanale, étudiant en langue et civilisation anglaise, actuellement à la faculté, et celle de 65 ans, ascendance profession libérale, divorcée, professeur de piano à la retraite. Tous les deux sont passionnés par les langues vivantes. L'anglais pour le premier, l'italien pour le second. Elle est dans l'association Dante Alighieri pour chanter les airs lyriques dont elle fait une activité journalière. Les langues vivantes sont incontournables pour elle. L'opéra implique en effet de chanter dans la langue de l'œuvre. Sa sonorité, son timbre, ses réparties, sa texture, la tenue du corps et de la bouche et du geste. La colère en allemand n'est pas la colère en italien, autrement dit. Tous les deux aiment le jazz classique, le rythme et la danse déployés par le jazz. Plus généralement, tous les deux aiment toutes sortes de musiques. Les musiques sont toutes bonnes et intéressantes, me disent-ils. Tous les chœurs et chorales apportent quelque chose à chacun d'entre nous. L'essentiel est en effet pour eux de chanter, de respirer pour chanter, de sentir en soi le rythme de la mélodie et du chant. Tout individu en est capable et peut le faire, même si celui qui croit chanter faux ou ne pas savoir chanter, même sans prétention ni ambition. Chanter pour chanter, au fond, voilà, me semble la tonalité de leur discours. L'un a accompagné l'autre au piano pour certains des morceaux lyriques de son répertoire personnel. Pourtant, dans leurs récits respectifs, tous les deux placent le baroque en haut de la hiérarchie. Et le baroque s'incarne de manière éminente, évidemment, dans Bach et dans sa musique d'orgue. C'est aussi pourquoi ils consacrent leur été à des masterclass et à fréquenter assidûment les festivals de musique classique reconnus comme celui de la Chaise de Dieu ou de la Roque d'Anthéron. Et j'ai travaillé comme ça par couple à l'intérieur de ma population. Et ça donne des choses assez intéressantes, alors je ne vais pas tout vous lire, mais ça m'a paru intéressant pour réfléchir précisément à cette question de l'objectivation et à cette question de la réflexivité du chercheur. À la suite justement de ce travail que j'ai fait sur l'enquête, j'en suis venu à me demander comment passer, si je puis dire, à une nouvelle étape d'objectivation. Mon interrogation a été de savoir si la contrainte normative du cours d'orgue que je vous ai décrit, vous l'avez perçu comme disciplinaire, habituellement expliquée par les impératifs de l'apprentissage de l'instrument, n'avait pas implicitement un fondement, ou plus nettement encore, une raison d'être religieuse. Mais en quel sens prendre le religieux ici? Non pas au sens ritualiste qu'il a habituellement lorsqu'on parle de pratique, mais plus volontiers au sens catégoriel du terme, dans son extension générique. De ce point de vue, le cours d'orgue, qui n'a évidemment rien d'une pratique religieuse, participe pourtant d'une certaine inspiration religieuse, tenant autant à l'instrument qu'à son répertoire. C'est ce qui ressort nettement des entretiens. Le groupe des élèves, en effet, se clive selon deux grandes orientations. Soit le travail en classe d'orgue confirme et réassure l'adhésion ancienne aux religieux, soit le travail en classe d'orgue ouvre et anticipe une voie nouvelle vers lui, vers le religieux chez l'individu. Sur la première orientation, confirmation et réassurance de l'adhésion ancienne aux religieux, la musique d'orgue est la variante esthétique de ce que la dignité des cérémonies religieuses appelle de beaux chants, d'une belle musique, d'accompagnement, de beaux interludes, etc. Le musical revêt alors une fonction expressive reconnue, soutenir le chant collectif dans le choral. Or, au conservatoire, la norme d'apprentissage, qu'est ce dernier, comme on l'a vu, enveloppe tout de suite l'étudiant organiste dans une certaine ambiance religieuse, c'est en quelque sorte consubstantiel à son travail instrumental. Or, cette situation originale entraîne des effets pratiques que la parole de certains élèves restitue plus ou moins directement. Par exemple, deux des élèves, toutes les deux de famille bourgeoise et catholique, sont dans ce cas de figure. Et dans leurs récits, elles ne cessent de revenir sur les émotions que dans l'enfance et durant leur jeunesse, les cérémonies, dans tous leurs éclats sonores, leur procuraient en famille. Elles en parlent comme d'un héritage indélébile. Bon, alors 40 ou 50 ans après, évidemment, il est clair que ces deux personnes trouvent dans le répertoire d'orgue sur lequel elles travaillent aujourd'hui non seulement la remémoration et l'écho de ces émotions anciennes, mais un nouveau mode de réassurance et de confirmation du religieux. Ce dernier est désormais légitimé par le médium de la musique d'orgue. Il s'agit bien sûr d'un religieux qui s'est transformé en cours du temps. Il n'est plus nécessairement lié à des pratiques ritualisées ou solennisées en famille, mais il est maintenant l'apprentissage instrumental en conservatoire. Les mots, en effet, qu'utilisent ces deux personnes, souffle, élévation, âme, intériorité, transcendance, montrent un déplacement de la catégorie vers sa variante métaphysique, la spiritualité, dont leur récit est rempli. Seconde orientation, elle porte sur l'autre partie du groupe, à l'ouverture d'une, elle est orientée vers l'ouverture d'une voie nouvelle vers le religieux. Alors là, j'y perçois davantage une sorte d'engagement désengagé, si on peut dire, et sans obligation. Car ce n'est plus le musical qui puise humblement sa force et sa raison d'être dans le religieux, mais le religieux qui devient muet et ne peut plus s'exprimer que par le musical. Tout se passe alors comme si le musical reliait alors l'impuissance du religieux à parler de l'ineffable, à évoquer le transcendant ou à imaginer le mystique. Alain et Gabriel, par exemple, deux autres camarades, collègues, sont dans ce cas de figure, âgés de 40 et 45 ans. Ils sont tous les deux de famille paysanne et ouvrière. Eux-mêmes, dans leur récit, se disent ignorants de tout dogme précis et détachés d'une pratique religieuse. Cette situation ne les empêche en rien de se dire croyants. Autre élément convergent d'appréciation, tous les deux ont des pères qui, à leur moment perdu, jouent en groupe de l'accordéon ou en écoute en famille, le dimanche. Cet instrument joué collectivement a été leur premier contact d'enfant avec l'univers musical. Dans ce contexte, leur motivation d'adulte à faire de l'orgue est liée chez l'un et chez l'autre à des rencontres décisives qui, m'ont-ils dit, les ont éblouis. L'un, leur récit décrit les contextes singuliers de ces rencontres in situ, cathédrale de Tulle pour l'un, orgue de Sainte-Gabelle en Haute-Garonne pour l'autre, et ils évoquent, tous les deux, la fascination qui en a résulté, résulté de ces rencontres. Si bien que chez Gabriel, l'apprentissage de l'orgue est apparu comme une sorte de réponse à un défi. Non seulement maîtriser cet instrument lui faisant rendre toute sa plénitude sonore, mais encore tenter de se former à un bon niveau pour proposer ses services à la communauté religieuse dont il relève. Voilà l'ouverture possible vers le religieux à partir du musical. Quant à Gabriel, il est un des rares à s'entraîner directement, l'autre, le récit tente de faire le lien entre la prime socialisation musicale que sa famille a assurée et dont il est fier, avec son inscription en double apprentissage au conservatoire en parallèle. Car ce monsieur, c'est-à-dire Alain, est inscrit à la fois en classe d'orgue et en classe d'accordéon. Dans son récit, il relie musicalement les deux, et la cohérence de sa démarche est fondée sur la continuité de ses pratiques, fidélité à la musique aimée par les siens, et jouée dans tous les moments festifs d'une vie de travail, et de l'autre, l'ouverture à un répertoire de musique sérieuse qui l'implique, qui ne mouille, comme dirait Sartre, dans sa dimension religieuse. Je vous remercie.